9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue dans un monde devenu immobile, une planète à l'arrêt qui guette la progression d'un ennemi invisible et inconnu il y a encore 3 mois et fait au jour le jour le décompte de ses ravages. Mon premier invité sera Patrice Debray, professeur de médecine, spécialiste des maladies infectieuses. Il a écrit « Vie et mort des épidémies ». Je lui demanderai pourquoi des maladies nouvelles naissent et disparaissent et quelle est l'origine de ce fléau, ce Covid-19. Est-il une maladie des temps modernes, du réchauffement ou de la déforestation? Puis l'économiste Daniel Cohen, au moment où nos sociétés plongent vers l'inconnu, à quoi pourra ressembler le monde d'après? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui peut disparaître avec le coronavirus? Au générique également, Bernard Pivot, Jeanne Chéral, Enki Bilal, des artistes, des personnalités des arts et des spectacles, celles et ceux qui nous ouvrent sur le monde en temps normal, en temps de paix. Nous irons chercher avec eux la chanson qui fait du bien. Alors, on en a d'abord éliminé quelques-unes. Par exemple, celle-ci de l'ensemble Archimusique.
Attention, danger, confinez-vous.
Vite.
Vous êtes contaminé.
Confirmé.
Non, trop flippant. Une autre du groupe Matmata.
Espace.
C'est pire, une vieille chanson de Couture.
Je veux m'enfermer avec toi, m'enfermer avec toi.
C'est une éventualité, mais dans un premier temps, comme à chaque crise, c'est le rire et la dérision qui nous sauvent, comme avec cette utile parodie de Claude François.
Lave-toi les mains. Oui, roule plus des pelles, éperdu si tu arrives dans tes aisselles. Et reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante. Oui, reste à la maison, c'est la formule gagnante. Y'a la télévision, à Nouna, même si c'est con, c'est mieux.
Reste à la maison, parodie signée Yann Lambiel. Restez à la maison, c'est ce qu'on fait l'équipe de C'est arrivé. Et nos invités jusqu'à 10h, Patrice Debray, Daniel Cohen, Bernard Pivot, Enki Bilal et Jeanne Chéral.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Patrice Debray.
Bonjour Patrick Cohen, bonjour à vos auditeurs.
Professeur d'immunologie, membre de l'Académie de médecine, ancien ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les MST, vous avez publié il y a quelques années un livre très éclairant sur notre situation d'aujourd'hui, Vie et mort des épidémies, dans lequel vous montrez que les maladies infectieuses font partie de l'histoire de l'humanité, qu'elles sont le produit du bouillonnement de la vie et que l'homme devra pour l'éternité apprendre à vivre et survivre avec les microbes. Ça veut dire que ce qui nous arrive n'a rien d'une maladie moderne?
Oui, c'est ce que j'ai voulu montrer à l'époque, en période, si je puis dire, de paix, c'est-à-dire au moment où nous étions entre plusieurs épidémies. Je voulais montrer comment l'homme doit apprendre à vivre avec les émergences infectieuses et reconnaître finalement qu'elles sont imprévisibles. Et par conséquent, développer déjà une culture de risque et savoir que toute épidémie peut survenir d'un moment à l'autre.
L'idée court pourtant aujourd'hui, face au désordre de la planète, que la nature se venge ou qu'elle nous envoie un message. C'est une idée trompeuse?
Non, c'est une idée trompeuse. Je veux dire, les épidémies ont toujours existé depuis que l'homme existe, ou tout du moins depuis qu'on peut apprendre l'histoire de l'homme, au moins par déjà les paléontologues qui montrent qu'à l'époque préhistorique, il existait déjà des épidémies, qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, sont acquises par les animaux et ont été acquises à ce moment-là, au moment de la domestication des animaux.
Oui, mais justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet de la déforestation qui peut augmenter les contacts entre l'homme et la faune animale sauvage? On sait que le virus du Covid-19 vient de là, d'un réservoir animal.
Alors, il y a, je dirais, deux grands mécanismes, parce que nous avons affaire à une dynamique complexe. La première, c'est lié aux capacités et aux propriétés adaptatives des pathogènes, et en particulier à la capacité qu'ont les pathogènes de s'adapter de l'animal à l'homme. Et puis d'un autre côté, et c'est à cela que vous faites allusion, il y a les transformations écologique, celle dont vous parliez, de la déforestation, mais aussi, il y en a d'autres, démographiques, technologiques ou socio-économiques, qui sont induites par nos sociétés et qui font ce passage de l'homme à l'homme.
Il y a quand même beaucoup d'interrogations, vous le savez, professeur, sur l'apparition, l'émergence soudaine d'un virus très agressif et très contagieux, et certains se demandent, qui a créé ce microbe ? Que répondre à cela ?
Ce microbe, il passe, et celui-ci comme d'autres d'ailleurs, de l'animal à l'homme. Ça a été l'objet d'une rencontre. Vous savez, finalement, il y a deux filtres. Le premier, c'est celui de la rencontre, en l'occurrence de l'animal à l'homme. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup à propos du confinement, de l'homme à l'homme, bien entendu. Et puis ensuite, vous avez un deuxième filtre, qui est celui du système immunitaire. Mais pour parler de cette rencontre, la première dont vous parlez, de l'animal à l'homme, eh bien, c'est vrai que des propriétés écologiques particulières ont fait qu'à une occasion ou l'autre, l'homme est rentré en contact. Ici, on parle de réservoirs animaux tels les chauves-souris ou le pangolin. Je crois que ça restera démontré. Mais c'est clair que ce passage de l'homme à l'animal est le fait d'une rencontre particulière. Ça a été l'objet pour le SARS à l'époque, celui de 2003.
Et pour la rage, évidemment aussi, qui a fait beaucoup de rage.
Pratiquement toutes les grandes épidémies sont l'objet de rencontres. Et les grandes pestes, bien sûr, du Moyen-Âge, vous le savez, entre le rat, la puce et l'homme.
Bien sûr. Alors, dans l'histoire des épidémies, il y a tout...
Pour revenir, l'histoire des épidémies nous apprend, en fait, pour chacune d'entre elles, comment se passe d'une épidémie à l'autre, d'un animal à l'homme à l'autre, les différentes formules de passage du pathogène à l'espèce humaine. Dans un autre livre que j'ai écrit d'ailleurs à la suite sur les révolutions de la biologie, je montre aussi comment l'homme est capable de se défendre contre ces différents pathogènes.
Bien sûr. Et oui, parce que si rien ou presque n'a changé depuis la préhistoire, le presque tient bien sûr dans les moyens de lutte qui sont beaucoup plus efficaces et rapides aujourd'hui. Dans l'histoire des épidémies, il y a toujours des histoires de confinement et aussi de ceux qui s'y dérobent. Parallèle stupéfiant, vous rappelez dans votre livre que quand la peste atteignit l'Europe en 1347, la réponse des citoyens les plus fortunés fut de fuir les villes infestées pour gagner les campagnes. Le comportement de quelques-uns dissémina l'épidémie chez beaucoup. C'est un peu ce qui vient de se passer 7 siècles plus tard.
Oui, c'est ça, c'est ces trois mots qui étaient connus à l'époque, sitôt, longe et tard, dès qu'ils viennent de l'italien d'ailleurs, et qui ont été décrits, et cette espèce de fuite des riches, d'abord des riches et des nantis, vers les campagnes, et qui ont, à l'époque, en particulier pour l'étude de cette peste dont vous parlez, ou de cet épisode de peste plus exactement, qui ont donc disséminé le virus dans les différents pays.
Mais le confinement
aujourd'hui, avec les communications rapides, les différentes... formules qui sont ou qui ont été l'objet de la dispersion des épidémies dans le monde au cours des siècles passés.
Le confinement, l'absence de contact demeure toujours la réponse appropriée à ce type de fléau.
C'est absolument capital, et si vous relisez les textes, si l'on étudie pendant toutes ces périodes qui ont été proposées et qui a été l'objet, tout le monde le sait, du mot quarantaine, on voit combien il est important, absolument capital, de maintenir ce confinement et de le respecter.
Ouais, parce qu'il y a encore ici et là des tenants de l'idée que le confinement est une bêtise, qu'il faut laisser se propager le virus, dépister le plus largement et protéger les plus fragiles. C'est une alternative ou c'est idiot ?
Non, il faut éviter bien évidemment les rencontres entre le pathogène et l'homme le plus possible, et donc maintenir ce confinement et retarder au maximum du possible l'impact que peut avoir la dispersion de la maladie.
Et puis les règles d'hygiène élémentaires, comme vous êtes aussi, Patrice Debray, l'auteur d'une biographie de Pasteur, vous rappelez que Louis Pasteur fut le premier à refuser les poignées de main par peur des contagions.
Oui, je rappelais même qu'il avait perdu dans un combat électoral pour ne pas oser serrer les mains de ses futurs ou potentiels électeurs. Mais c'est absolument capital, et si vous revenez au premier, à l'inventeur de l'hygiène, qui est Arthur Semmelweis, on voit combien le lavage des mains a été important dans l'historique de l'hygiène.
Et c'est comme ça, pour reprendre la fin du titre de votre livre, c'est comme ça que meurent les épidémies.
Oui, les épidémies. épidémies, heureusement, s'arrêtent, encore que pour beaucoup d'entre elles, souvenez-vous, la peste, elles ont continué à réapparaître par épisode, et puis d'autres, comme le sida, la tuberculose, le paludisme, continuent bien évidemment à sévir. Mais un certain nombre d'entre elles, quelques épidémies aiguës, ont cessé par des mesures telles que celles que nous proposons ou qui sont proposées aujourd'hui et pour lesquelles, je reviens à nouveau, il faut impérativement suivre.
Merci beaucoup Patrice Debray. Je rappelle l'un de vos livres, Vie et mort des épidémies avec Jean-Paul Gonzalez, qui est disponible en e-book puisque les librairies sont fermées. Et puis vos deux derniers, Les révolutions de la biologie et la condition humaine, paru en janvier, et celui consacré à votre grand-père Robert Debray, tous parus chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci beaucoup et merci à vos auditeurs.
Dans un instant, l'économie qui plonge vers l'inconnu, l'économiste Daniel Cohen est notre prochain invité.
Europe 1. Même en ces temps de confinement, on vous retrouve Patrick Cohen en direct de chez vous pour cette arrivée cette semaine.
Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Directeur du département d'économie de Normal Sup, à l'heure où nous parlons, plusieurs centaines de millions d'habitants des pays développés vivent en confinement et ça ne fait que commencer. Vous imaginez qu'un jour, à cause d'un microbe, la planète s'arrêterait de tourner ou au moins qu'une partie de l'humanité serait forcée de rester immobile?
Bah, on l'avait vu un peu avec le SRAS, on avait eu cette vision un peu d'avant-coureur d'une situation où en effet l'interconnexion des humains avec la mondialisation allait créer quelque chose bon qui, comme votre précédente invité le disait, n'a rien de nouveau, mais on voyait bien qu'il y avait toutes les raisons de penser, en tout cas en 2003, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de cette nature qui pouvait se dessiner. C'est ce qu'on vit en effet aujourd'hui. De cette ampleur, personnellement, je n'avais jamais pu l'imaginer.
Alors qu'est-ce que nous dit la science économique face à un tel coup d'arrêt, face à un événement complètement inédit?
Alors la science économie, à mon avis, pas grand-chose, mais les comptables, beaucoup. Enfin, on peut tous faire l'exercice de pensée qui consiste à se dire, supposons que pendant un mois, en France, il ne se passe rien. Puis après, on va appliquer des règles de trois à ce cas limite. Si pendant un mois, il n'y avait aucune activité économique, ben ça ferait un douzième de PIB en moins, je crois que tout le monde peut le comprendre, ça ferait une récession de 8%. Un douzième, c'est 8%. On aurait 8% de manque à gagner sur l'année. Alors, évidemment, ouais, on n'est pas sur un mois d'arrêt total. Il y a des activités qui vont pouvoir récupérer ce qu'elles ont perdu au cours de ce mois tragique. Par exemple, vous voulez acheter un appartement, vous n'allez pas le faire cette année, mais évidemment, votre plan ne va pas s'arrêter pour cette crise, vous allez le faire après. Il y a des biens, des achats que vous allez récupérer, et il y en a que vous ne récupérerez pas. Aller au restaurant, aller voir un concert, au cinéma, toutes ces activités de flux pur, vous écoutez à la radio, si je le fais ou pas, je ne peux pas le récupérer en vous écoutant deux fois plus, aller deux fois plus au restaurant. Donc il y a des activités qui, par nature, ne le récupéreront pas. Si je dis que deux tiers seront épargnés, seront récupérés, ou en fait pourront continuer de travailler, les 8% deviennent 2,5. Voilà. Donc il y aurait une récession de 2,5 avec ces deux clés. Ce 2,5, je ne le dis pas au hasard, c'est l'estimation de la commission économique. On voit d'où ça vient. C'est ce genre, c'est pas la science, c'est des règles de 3. Après, si c'est deux fois plus grave, si c'est pas un mois, c'est deux mois, ça sera le double. Et si c'est un trimestre, ça sera évidemment, oui, encore plus. C'est ça les ordres de grandeur. Donc c'est considérable. Je rappelle, en 2008, qui avait été une crise incroyable, la plus sévère depuis la fin de la guerre, on avait fait moins 2,9, quasiment moins 3. Donc on est sur des étiages qui vont forcément ressembler à cette crise de 2008-2009.
Mais en 2008, c'était une crise financière. Là, c'est l'économie réelle qui est touchée, avec d'énormes destructions de richesses. Est-ce que les banques centrales, les budgets nationaux ont les moyens de la compenser? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir le carnet de chèques ou le robinet à crédit quasiment sans limite, comme ça a commencé?
Alors, ils ont les moyens de le faire, mais en effet, le parallélisme avec 2008 s'impose jusqu'à un certain point quand même. Donc le parallélisme, c'est qu'en effet, en 2008-2009, hein, on avait donné l'artillerie, les banques centrales étaient intervenues, avaient multiplié par 4 leur bilan, ce qui est évidemment énorme. Les déficits avaient été considérables. Le déficit français, c'était 7,7% de déficit. Donc on avait vraiment mis le paquet. Il faut le faire aussi aujourd'hui comme on l'avait fait à l'époque, et on verra après. Vraiment, c'est ça l'essentiel. Mais c'est pas la même chose qu'en 2008. En 2008, c'était une crise financière à l'origine, et donc il fallait surtout éteindre l'incendie au sein du système financier. C'est ce qui explique que c'était surtout les banques centrales à la manœuvre à l'époque qui avaient essayé d'éviter une contagion, un effondrement systémique, comme on dit, du système bancaire et financier. Là, comme vous le dites très bien, c'est l'économie réelle, c'est le café qui ferme, c'est le concert qui n'a pas lieu. Ça, c'est pas la banque centrale qui va pouvoir l'endiguer. Il n'y a que les budgets pour prendre en charge, peut-être un pour un, ces activités perdues. La réponse idéale, c'est évidemment celle où on arriverait à avoir cette intelligence du détail, parce que c'est pas si simple, mais qui permette de dire au restaurateur qui a fermé pendant un mois ou deux, ben voilà, l'État vous dédommage entièrement. Pas d'impôts, chômage partiel, pas de charges, et votre crédit, ben, on va l'oublier. Voilà, il faudrait faire quelque chose, si vous en avez un. C'est quelque chose de cette nature. Donc, si on est sur 2,5 de croissance en moins, ça devrait, si c'était bien fait, se traduire exactement par 2,5 de déficit en plus. Et si c'est le double, c'est le double. Sans compter qu'évidemment, après, il va falloir relancer un peu tout ça quand même. Là, il faudra faire des choses un peu plus classiques.
Alors,
il faut dédommager les gens pratiquement au centime près. C'est ça la politique idéale. C'était pas exactement ça en 2008. C'était plus financier à l'époque.
Alors donc, Daniel Cohen, et ensuite, est-ce que la machine économique va repartir comme avant ou différemment? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui peut changer dans notre modèle d'aujourd'hui?
Alors, d'abord, au strict point de vue de la politique macroéconomique, il faudra redonner un petit coup d'accélérateur. Il suffit pas de dédommager, comme je viens de le dire, un pour un, les gens qui n'ont pas pu travailler. Il faudra relancer un peu les choses. En 2008-2009, la Chine était encore une puissance en marche. Elle avait un potentiel de croissance qui était encore très, très fort. Et l'Allemagne, d'ailleurs, avec le chômage partiel, avait toujours tout joué sur la reprise de ses exportations vers la Chine, et ça avait marché, ce pari. Là, ça ne marchera pas comme ça. La Chine est en déclin de sa croissance. À l'époque, on tournait autour de 10. Là, on va être plutôt à 4 ou 3 cette année. Ça n'aura pas le même effet d'entraînement. Donc, il faudra faire plus et ne pas simplement compter sur une répétition des mécanismes qui avaient fonctionné en 2008-2009. Maintenant, si on prend un peu de recul, oui, on voit que cette crise, comme souvent, va être un accélérateur de tendances qui étaient déjà perceptibles. Sur le front de la mondialisation, on s'est rendu compte d'une extraordinaire dépendance par rapport à la Chine, mais par rapport, on va dire, à la chaîne de valeur totalement parcellisée, éclatée dans le monde, qu'on en a perdu en réalité le contrôle. On l'a vu pour la pharmacie, mais il y a vraiment toutes sortes de secteurs qui vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Donc, ce qu'on voyait déjà l'année dernière avec les batailles commerciales de Trump, mais c'est une tendance qui remonte à plus loin, à savoir une tendance à relocaliser les choses, à ne plus compter comme on l'a fait jusqu'à l'extrême sur le commerce international. Je crois que ça, la crise chinoise va accélérer la prise de conscience du fait que la mondialisation a été trop loin. Ça, c'est un bout, si je puis dire, du raisonnement. Mais il y a l'autre bout, et je pense que c'est ça qui laissera la marque la plus forte. C'est que on est aujourd'hui à l'heure de nouvelles technologies numériques, à l'heure des GAFA, et on voit que cette crise va être un extraordinaire accélérateur de ça. On voit qu'on est obligé de vivre sur sa tablette pour tout, quoi, pour s'informer.
C'est le triomphe du numérique.
Et je pense que ça va être l'accélérateur de cette tendance. Donc sur un côté, oui, la mondialisation, le capitalisme, pour utiliser cette expression un peu vague, va revenir, va va ramener un peu les choses chez soi, mais de l'autre, plutôt les nouvelles technologies, mais évidemment portées par, ce qu'on peut appeler le capitalisme du 21e siècle, vraiment, c'est-à-dire celui des algorithmes et du numérique. Là, je pense que ce sera un accélérateur. Il y a des pratiques qu'on est en train de prendre, de se réunir à distance, d'utiliser davantage, encore une fois, les tablettes et autres. Je pense que ça restera. Les vainqueurs, on le
voit. Avec un effet de déshumanisation, le travail en ligne, c'est le nouveau travail à la chaîne.
Exactement. Moi, je compare ça au travail à la chaîne au début du XXe siècle. C'est le travail en ligne aujourd'hui. On rentre dans n'importe quel bureau. Enfin, il y a des gens derrière des ordinateurs presque partout. Et donc ça... choses vont s'accélérer et à la fois c'est bien d'un côté parce que c'est des nouvelles technologies, ça ouvre le champ des possibles, mais ça prépare, comme le travail à la chaîne, une formidable déshumanisation à l'échelle du 21e siècle. Je crois qu'on est en train de vivre le premier moment d'une industrialisation de notre économie de services.
Merci beaucoup Daniel Cohen d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour tenter de nous éclairer sur ce monde qui change et qui va sans doute brutalement changer. Dans un instant, un homme confiné au milieu de ses livres. On va appeler Bernard Pivot.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1, jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen en direct de chez lui.
Bonjour Bernard Pivot.
Oui, bonjour Patrick Cohen.
Comment allez-vous et comment vivez-vous en ces temps d'enfermement ?
Eh bien écoutez, je vis ça plutôt bien parce que, comme l'a dit Éric Métou dans un tweet, écrivain confiné égale pléonasme. Les écrivains sont des gens qui ont l'habitude de rester chez eux pour écrire. Et d'ailleurs, cet épisode me rappelle mon confinement du temps d'apostrophe. Je lisais entre 10 et 14 heures par jour pendant 15 ans. Souvent, je ne quittais pas mon appartement une seule minute durant toute la journée. Mais à l'époque, évidemment, c'était un confinement volontaire, professionnel, fructueux. C'était pour gagner ma vie. Et aujourd'hui, le confinement, c'est pour ne pas la perdre.
Donc, en réalité, vous vivez comme vous avez longtemps vécu au milieu des livres, comme tous les grands lecteurs et comme les écrivains. Mais vous aimeriez que tout le monde puisse avoir accès aux livres, qu'on rouvre les librairies.
Ben oui, spontanément, dès la première mesure de confinement, je me suis dit, mais les librairies sont à la vie de l'esprit, ce que sont les boulangeries, les épiceries, à la vie du corps. Il faut des nourritures aussi pour l'esprit. Et donc, les meilleures nourritures d'esprit se trouvent dans les librairies. Donc, j'ai demandé j'ai fait appel, évidemment, au président de la République, qui est un intellectuel, au premier ministre, qui a écrit un livre où il faisait l'éloge de la lecture. Je me suis dit, pourquoi pas rouvrir les librairies, d'autant plus que les gens ne sont pas serrés les uns contre les autres dans ces librairies. Et puis, bon, je reviens à la raison et je me dis, mais il faut se confiner le plus possible. Et ce n'est pas en rouvrant les librairies qu'on va aider le virus à arrêter sa marche épouvantable. Simplement, il y a une chose qui me choque, c'est si les librairies sont fermées. En revanche, Amazon continue toujours, lui, de diffuser ses livres. Et je pense que au terme de cette campagne, de cet enfermement, de ce confinement, eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de librairies qui déposeront leur bilan, alors que Amazon continue de triompher.
Alors, on peut passer commande en évitant Amazon chez les réseaux de libraires. Je crois que ça fonctionne toujours. Librairieindépendante.com, Place des libraires, lalibrairie.com. Mais est-ce qu'on ne fait pas courir des risques sanitaires aux livreurs, aux facteurs ou aux travailleurs du livre? La question est posée.
Oui, bien sûr. Mais les livreurs sont des gens qui sont exposés, évidemment.
Et il faut y penser. Vous restez, j'imagine, à l'écoute du monde extérieur, Bernard Pivot, vous êtes sur Twitter, vous venez de le rappeler. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans l'humeur du moment? L'angoisse, la gravité, l'insouciance, l'humour, la dérision?
Ce qui me frappe, c'est le silence. Hier, ouais. J'ai ouvert mes fenêtres à 20h pour applaudir les médecins et le personnel soignant. Et la chose extraordinaire, vous ouvrez votre fenêtre et faites un silence total. Silence total. Et à ce moment-là, les applaudissements ont crépité. On n'entendait que ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre bruit. Et les applaudissements se répercutaient de rue en rue. C'est extraordinaire, ce silence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter leur appartement, quitter leur maison, pour un peu de soleil, pour un peu de grand air, mais aussi pour le silence. Si vous habitez, par exemple, une HLM un peu bruyante, si vous avez des voisins un peu trop expansifs, eh bien, vous avez, de temps en temps, vous dites, mais pourquoi n'irais-je pas dehors, puisque c'est un silence extrêmement agréable. Et si vous pouviez, Patrick Cohen, interviewer les moineaux, les pigeons, les corneilles des villes, ces oiseaux doivent être stupéfaits chaque matin par le silence qui règne sur les villes.
Un conseil de lecture, Bernard Pivot, un livre qui fait du bien ou qui pourrait faire du bien.
Alors, écoutez, moi, quand je lis, évidemment, je continue de lire des nouveautés pour le journal du dimanche, où j'ai une chronique, et quand comme j'ai du temps maintenant, du temps pour rêver, du temps pour dormir davantage, etc., je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire en plus? Alors, mon mouvement naturel, c'est de me porter vers les voyages, vers le contraire du confinement, l'exploration, les conquêtes, les vies tumultueuses. Alors, j'hésitais entre Jack London, et puis Alexandre Dumas, puis Hemingway. Et puis, finalement, j'ai changé du tout au tout. Je me suis dit, mais non, il faut que tu lises ou relises plutôt les aventures du plus célèbre confiné de tous les temps, Robinson Crusoe. Alors j'hésite entre Robinson Crusoe et Daniel Defoe, ou bien Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier.
Évidemment. Et puis pour finir, je vous ai demandé une chanson qui fait du bien et vous avez choisi ceci.
Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes.
La bicyclette, Yves Montand, paroles de Pierre Barou, musique de Francis Lay. Bernard Pivot, pourquoi ce choix?
Ah ben parce que ce que raconte cette chanson est interdit aujourd'hui. Partir en balade à bicyclette, à plusieurs, groupés, alors ça c'est strictement interdit. En revanche, il n'est pas interdit de tomber amoureux.
Évidemment. Et puis, question qui va devenir rituelle. Ce qui vous manque le plus, la première chose que vous ferez à la fin du confinement?
Rejoindre la femme que j'aime qui est confinée dans une ville très éloignée de Paris.
Merci beaucoup Bernard Pivot de nous avoir accompagné quelques minutes pour cette émission et pour cette humeur et pour vos conseils. Merci à vous.
Merci Patrick, au revoir.
Europe 1.
Dans un instant avec nous, un grand auteur d'anticipation qui a souvent imaginé des futurs angoissants et des scénarios cauchemardesques pour ses bandes dessinées. Enki Bilal, la réalité a-t-elle dépassé la fiction?
Europe 1. On continue à vous informer sur Europe 1. Alors comme chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Bonjour Enki Bilal.
Bonjour.
Grand auteur de bandes dessinées.
De confiné à confiné.
Exactement. Grand auteur de bande dessinée, cinéaste, maître de l'anticipation, du fantastique. Comment vivez-vous ce moment que vous avez peut-être anticipé ou pas?
Anticipé, je ne vous cache pas que l'idée d'un bug, entre guillemets, médical, sanitaire, global, planétaire, ça m'avait traversé l'esprit. Hein. C'est quelque chose qui fait partie, en tout cas, des prévisions qu'on pouvait avoir, sauf certains politiques ne les ont pas eues, hein, les masques, par exemple. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais prévu de faire, et puis j'ai immédiatement renoncé, parce qu'il y avait une charge dramatique, tragique, tellement énorme, que j'ai préféré, finalement, je suis allé sur le bug numérique, qui, lui, nous donne une distance, puisque nous-mêmes, on est dans l'addiction, on est responsable, donc on peut avoir une dérision par rapport à ça. Le virus qui nous tombe dessus, on ne peut pas avoir de dérision par rapport à ça. On ne contrôle rien, donc voilà. Donc je suis dans le confinement, là je suis dans mon atelier qui est à 3 minutes de chez moi, donc j'ai fait ce matin à 7h15, 7h20, je suis sorti, j'ai croisé 3-4 personnes qui prenaient des chiens, avec 10-15 mètres minimum de distance, je risque rien, c'est clair.
Et je vais
rentrer tout à l'heure, voilà.
Bug, c'est votre dernier album paru, le tome 2 de Bug, où vous imaginez une planète entièrement paralysée par la disparition soudaine du monde numérique par un gigantesque bug. Mais bug en anglais, c'est aussi un microbe, un virus.
Exactement, et d'ailleurs dans Bug, dans cette série, il y a la dimension, alors, sauf qu'elle est extra, entre guillemets, alien, extraterrestre, mais effectivement il y a une bestiole qui squatte le corps du personnage principal, exactement.
Ouais. Mais un virus,
c'est plausible. On dira, les scientifiques nous diront que dans 15 ans, 20 ans, on aura peut-être des choses comme ça qui arriveront aussi.
Un virus, c'est un ennemi invisible, c'est le plus terrifiant.
Oui, exactement. Il est invisible. Il aime ce que nous on aime aussi entre nous, c'est-à-dire la promiscuité, une forme de promiscuité, de sensualité, être proche les uns des autres. Et ça nous est interdit maintenant. Il faut s'éloigner de plus en plus parce que sinon on se donne corps et âme à cette malédiction qui semble porter. Donc il faut être très 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 prudent, faut écouter les consignes, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est la distance. Je crois qu'effectivement, masque ou pas masque, mais la distance. Moi, je dirais pas un mètre, je dirais au moins 2 mètres. On a de l'espace maintenant dans les villes, dans les campagnes, donc prenons 2-3 mètres de distance et ce sera beaucoup plus simple.
Ouais. Et c'est un ennemi qu'on ne peut pas dessiner, contrairement à ceux que vous avez mis en scène, parce qu'il est... Il est trop petit. Vous avez souvent imaginé... Les scientifiques le voient, évidemment. Vous avez souvent imaginé, Enki Bilal, des avenirs cauchemardesques, des futurs apocalyptiques. Je me suis souvent demandé, en vous lisant, si vous aviez peur pour vous-même, si vous dessiniez ces histoires pour conjurer vos propres peurs.
C'est pas une histoire vraiment personnelle. C'est pour conjurer peut-être la peur pour l'humanité. En tout cas, c'est pour poser la question d'un futur possible et plausible. Mais il n'y a jamais eu sinon je pense que je n'aurais pas tenu, hein. Si j'avais fait ça au premier degré avec l'idée que ça pouvait arriver, que ce serait une horreur il y a toujours un second degré, une dérision. Donc je crois que ça c'est une dimension extrêmement importante. Sinon je pense que je n'aurais pas tenu, comme je viens de le dire. Et c'est très important parce que c'est une façon, quand on regarde devant, on est davantage prêt. Je dirais presque d'une certaine manière que par ma culture, et je discutais avec des amis artistes qui sont aussi dans le même domaine de la prospective. Quand on a cette culture de la prospective, finalement, on a le gène en soi et on vit des situations telles que celles qui est le confinement aujourd'hui, peut-être d'une manière plus sereine.
Ce qui vous manque le plus, Enki Bilal, la première chose que vous ferez à la fin du confinement?
Je pense qu'on en a pour 3 semaines minimum, enfin pour 1 mois et demi, voire plus. Donc, je pense que ce serait vraiment, je ferais d'une pierre plusieurs coups, c'est sortir évidemment, aller dans un très bon restaurant, dans un bar, et là, il y aura le plaisir de la vie sociale, la ref, qui commence à nous manquer, qui va nous manquer, on sera au milieu des autres à partager. Je crois que c'est aussi simple que ça, c'est une espèce d'immersion dans la vie. Apprécier les bonnes choses.
Un livre, le livre qui fait du bien.
Alors moi, j'ai repris ce bouquin que j'avais commencé, un gros pavé sorti en 2016, je crois. Yuval Noah Hariri, hein, grand essayiste qui a fait des bouquins fascinants sur nos origines, sur nous-mêmes. Et Sapiens, c'est un titre qui est très 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 à la fois ludique, il tombe en plus très très bien aujourd'hui parce qu'il nous raconte d'où l'on vient, du fin fond des âges jusqu'à maintenant, et comment on a construit ces sociétés, dans quelles conditions. C'est très vivant, c'est surprenant, c'est parfois drôle. Et ce qui nous a amené peut-être à la situation où on est aujourd'hui, à savoir être à la merci d'un virus, parce que peut-être on s'est laissé un peu emporter dans des domaines notamment économiques, globalisants, qui nous rendent vulnérables. Donc tout ça, c'est un livre dans lequel on peut avancer dans une sorte de zapping, hein. C'est pas un roman, et donc on peut aller chercher les éléments, les époques qui racontent notre progression d'humain sur cette planète.
Et puis, Enki Bilal, je vous avais demandé une chanson qui fait du bien, et vous avez choisi Le Boss.
J'ai choisi Le Boss, ouais, Ouais, alors c'est pas du rock, c'est pas le boss rock pur rock, là c'est presque de la country, et c'est super beau, c'est son dernier album, il y a 3-4 titres magnifiques, dont celui que vous êtes en train de passer, et ça, ça donne une, des envies d'espace en cette période de confinement, il y a une superbe pochette en plus, avec un cheval qui se cabre dans la nature, c'est bon, voilà, c'était, ça m'a paru comme une évidence, je venais de découvrir le titre, voilà.
Tucson Train, extrait de son dernier album, Bruce Springsteen, ouais. On l'écoute ? On l'écoute. Tucson Train, extrait du dernier album de Bruce Springsteen, sorti l'an dernier. Mki Bilal, il y a à la fois des grands espaces dans ce morceau de musique et puis forcément l'image de Springsteen en concert parmi au milieu de milliers de fans, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Bah exactement, c'est un médicament contre le confinement. Je pense qu'on va tous écouter énormément de musique et de lecture. On va lire, on va relire. Je fais un signe amical d'ailleurs à Bernard Pivot qui est passé juste avant, que vous avez interviewé juste avant. On va être face à cela nous-mêmes aussi. Hein, y a ça aussi. C'est une période très très particulière. Voilà, j'ai l'impression de vivre entre guillemets pour ma génération, pour toute une génération. C'est notre guerre à nous. Alors ce n'est pas une guerre, effectivement, on n'est pas dans les tranchées, ce qui est un enfer absolu. Hein. Donc là, on est, comme le disent un certain nombre de messages assez drôles comme ça, on est confinés, allongés à bouffer des chips, je sais quoi, il faut éviter de manger ça d'ailleurs, entre guillemets. Oui. Mais oui. Alors que ceux qui étaient confinés, ils l'étaient en 14, par exemple, ils l'étaient dans des tranchées. Évidemment, c'est pas comparable.
Merci beaucoup Mki Bilal d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Merci à vous.
Dernier album paru, le tome 2 de Bug chez Casterman.
Merci à vous, merci, courage, on triomphera.
À suivre, une grande artiste qui, comme les autres, a dû interrompre sa tournée, mais qui va nous transmettre quelques bonnes ondes musicales. Jeanne Chéral, dans un instant.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Jusqu'à 10h, Patrick Cohen est en direct de chez lui pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour Patrick.
Dans l'an 40, votre dernier album, vous chantiez la quarantaine,
oui.
La vôtre, sans imaginer que la quarantaine, non pas l'âge, mais l'enfermement, nous y serions tous. Comment vivez-vous ce moment ?
J'essaie de le vivre du mieux possible. J'aimerais bien vous dire que je profite de cette période pour être en introspection et en création, mais pour l'instant j'ai un peu de mal à m'organiser. Mais je pense que je vais prendre un certain rythme et je le vis de façon hier j'ai eu un gros coup de mou. Mais c'est revenu. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on va vivre cette période de manière pas forcément sereine pour tout le monde, mais faut accepter ça. C'est vrai, oui, que c'est pas naturel d'être assigné à résidence comme ça. Il faut l'accepter et tourner le positif, trouver le positif dans une situation pareille. Pour rien que pour ranger chez soi, ça a l'air de rien, mais il faut au maximum trouver la ressource pour jeter, pour trier, pour un peu renouveler son intérieur.
La vie à la maison, repliée sur vous-même, mais attentive aux autres. Je connais vos combats et votre générosité. Qu'avez-vous envie de dire à propos de ceux qui ne sont pas confinés parce qu'ils se dévouent aux autres, aux malades notamment ?
J'ai juste à les remercier, hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et on prend conscience des inégalités qui se creusent, j'ai l'impression, dans des périodes comme ça, parce que on a tout un pan de population qui est assez privilégié et qui peut vivre. Je me sens privilégié, hein. Je peux vivre cette période de manière complètement en sécurité dans mon logement. Enfin, je suis dans mon appart parisien. Que malgré tout, j'aime bien, même si j'ai pas de terrasse. Mais il y a toute une partie de travailleurs qui sont dehors, quoi, qui sont confrontés. Hier, j'ai eu un vrai coup de blues parce que j'avais passé une commande un peu anodine des draps que j'ai reçus hier et je me suis dit, mais voilà, il y a un facteur qui vient livrer ce colis qui est absolument pas indispensable. Enfin, je pense que ça va nous recentrer aussi sur des priorités, sur des habitudes qu'on a, que là, il faut absolument qu'on lâche, quoi.
Sur l'essentiel. Ouais. Ouais. Vous étiez en pleine tournée, Jeanne Chéral, tous les concerts sont annulés, repos forcé, public frustré. À quoi pensez-vous à l'ambiance de folie des premiers spectacles quand tout cela sera fini?
J'ai du mal à me projeter, mais j'imagine que les premiers concerts vont avoir une saveur particulière et le public va avoir vraiment besoin, envie de sortir. Et enfin, hier soir, j'ai eu la chance de faire un petit live avec une copine, Nash, Anna Chélid, qui m'a invitée, ouais. Parce que moi, je suis nulle en technique, donc elle m'a invitée sur son Instagram. On était chacune chez soi au piano et on a discuté, on a joué un petit quart d'heure, 20 minutes. Ça m'a fait un bien. Enfin, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de le refaire une fois ou deux, enfin, sans que ça devienne forcément un rendez-vous régulier, hein, pas du tout, mais ça m'a réconforté en fait de faire ça, de penser ça, à autre chose, ça, d'être un peu dans la musique et de partager surtout. C'est ça qui m'a
plu. Et de partager,
plus,
oui, de partager de la musique. Mais ouais. Les artistes et peut-être vous bientôt commencent déjà à partager des créations et je pense que ça va s'étendre au fur et à mesure de ce temps de confinement. Conseil de lecture, un livre qui fait du bien, oui.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport au fait de partager quelque chose sur le confinement. C'est aussi un versant dans lequel il faut pas trop nourrir, quoi. Je veux dire, on a des blagues comme ça qui circulent sur Twitter, rentrée littéraire septembre 2020, et tous les romans sur le confinement, les albums sur le confinement. Enfin, ouais. Justement, vous me demandez un album, enfin un bouquin qui ferait du bien. Moi, j'ai pensé à un livre que j'ai lu très très récemment, que m'avait conseillé mon pianiste en concert. Un livre qui s'appelle Les Saisons de Maurice Ponce, qui est un bouquin complètement culte. Et là, en ce moment, j'aime bien lire des essais, j'aime bien lire des choses plutôt de réflexion. Et ce bouquin-là m'a fait tellement voyager. C'est, ça se passe dans un pays qui alterne 40 jours, 40 mois de pluie verglacée et 40 mois de froid polaire. Mais c'est d'une écriture incroyable. Vraiment, j'étais complètement ailleurs. Donc je pense qu'on a besoin. J'ai adoré relire Chez Soi, par exemple, de Mona Chollet, L'Art de l'essentiel de Dominique Leroux. C'est des bouquins qui me font vraiment du bien. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de s'évader là en ce moment, et je trouve que Les Saisons de Maurice Pons, moi c'est un bouquin qui ressemble à aucun autre, qui m'a vraiment fait partir, et je le conseille à tout le monde.
Conseil bien noté, Jeanne Chéral. La chanson qui fait du bien que vous avez choisie, on va l'écouter, elle est de Véronique Sanson. Chanson à l'Olympia en 75, Jeanne Chéral. Pourquoi ce choix ?
Live, merci. Hein. Ça me touche. Parce que pour moi, c'est une chanson, c'est une composition extraordinaire, et j'ai tout le temps envie de la les passages. Enfin, le passage en fa là, quand le piano monte et s'énerve, j'ai tout le temps envie de le jouer, ce truc-là. Ça me fait du bien.
Vous en avez
je suis
fait
dans
quelques
le piano notes. Là d'ailleurs.
Ah, c'est dommage, des regrets là maintenant, tout d'un coup.
Vous l'entendez là le piano ?
Mais parfaitement.
Ah.
5 sur 5. Une autre fois. Merci Jeanne Chéral, ouais, revenez-nous sur scène aussi vite que possible. Merci pour ces moments de musique et de douceur.
Bah, avec plaisir, merci à vous.
Europe 1.
Merci de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui ont préparé cette émission dans des conditions exceptionnelles. Julien Cottreau, Guillaume Vasseau, Julien Blanc, je vous retrouve demain 9h dans quelques minutes, Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Eh bien, votre écoutez, invité ce matin.
Eh bien, on vient d'entendre Véronique Sanson, je n'aurais ni le temps ni le goût de rester chez moi. Eh bien, avec Catherine Ney, nous vous emmenons en Italie avec Blandine Hugonnet, en Espagne avec Henri de Laguerry, en Allemagne avec Helen Kohl, au Royaume-Uni avec Johanna Chabas et aux États-Unis avec Xavier Yvon. À tout de suite.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.